Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres. Que se passe-t-il actuellement dans notre beau pays? Eh bien, plein de choses. Des choses tellement magnifiques qu'on se demande comment ça se fait que ça continue comme ça. En l'occurrence, on aurait pu vous parler de l'extrême droite qui se fait un petit peu casser la figure. Changement de système en tuant des gens, voilà ce que propose l'extrême droite. Du coup, l'Alvarium qui était basé à Angers, eh ben, a été dissoute par le ministre de l'Intérieur qui en a profité pour faire un peu de publicité au maire de droite de Angers, monsieur Béchu, qui soi-disant aurait pris le problème à bras le corps. Bah, c'est pas tout à fait ce que dit le réseau antifasciste angevin, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein, la propagande là, elle est très très présente. De fait, l'ultra-droite aussi, on a appris que deux personnes du sud-ouest, on sait pas trop qui c'est, un de 46, un de 60, avaient envisagé de là aussi, avec des armes, aller dézinguer du monde, qui, quoi. Eh oui, on nous parle de wokisme et d'islamo-gauchisme à longueur de journée dans la propagande gouvernementale qui serait l'ennemi à abattre. On nous en parle aussi dans les candidats, non-candidats à la présidentielle. Oui, notre identité, elle serait absolument à essayer de à défendre parce qu'on est attaqué de toutes parts. Et finalement, on s'aperçoit que les plus dangereux dans le lot, eh bien, ce sont surtout des militants qui sont tout à fait d'accord avec ceux qui veulent défendre notre identité. Donc, ce serait peut-être intéressant de retrouver un petit peu de bon sens, ou alors de sens, ou je sais pas trop comment le dire, qui nous permettrait de voir qui sont les vrais ennemis et peut-être tous ces partisans de l'inhumanité. On aurait pu vous parler également, puisqu'on vous avait prévenu la semaine dernière, de la guerre de l'eau qui a déjà commencé dans le pays, notamment avec les méga-bassines. Une manifestation nationale a regroupé 3000 personnes selon les organisateurs, 1500 selon la préfecture, le samedi 6 novembre à Meaux sur le Mignon, c'est dans le Poitou, pour l'arrêt immédiat des chantiers de méga-bassines et autres projets d'accaparement de l'eau. Et c'était à l'appel de Bassines Non Merci, la Ligue pour la Protection des Oiseaux, la Confédération Paysanne, des Soulèvements de la Terre, etc. Les méga-bassines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réservoirs géants, des sortes de grandes piscines qui font plusieurs terrains de football, et où il n'est pas question de se baigner, non, non. Qu'en pense un certain Christian Amblard, un spécialiste de l'eau, chercheur estampillé CNRS, et engagé également dans des associations de défense de la biodiversité? Interviewé dans la chronique Au fil de l'eau sur France Info, c'était en septembre 2021. Alors, les méga-bassines.
Mais je pense que faire des réservoirs d'eau et faire des bassines et ainsi de suite, c'est pas la solution responsable et durable. Surtout sur le long terme. Je dis même quelquefois que c'est un non-sens. Parce que si vous voulez, l'eau qu'on met dans des bassines ou dans des réservoirs, c'est de l'eau qui était soit dans les sols, soit dans les cours d'eau. Donc elle était soit souterraine, soit elle était courante. On fait monter cette ressource eau à l'air dans une situation stagnante. La conséquence directe de tout ça, c'est qu'on a une perte quantitative extrêmement importante. On perd entre 20 et 60% des flux entrants. Donc une perte quantitative. Deuxièmement, une perte qualitative. Parce que vous comprenez bien que lorsqu'on fait monter de l'eau en surface comme ça, elle est exposée au soleil, elle est exposée à une élévation importante de température. Et à ce moment-là, dans la plupart de ces réservoirs d'eau, vous avez ce qu'on appelle une eutrophisation de la masse d'eau, c'est-à-dire une dégradation en fait de sa qualité. Alors que lorsque l'eau, elle est dans les sols, elle humidifie de façon efficace et sans perte, si vous voulez, et sans perte de qualité, l'ensemble des sols. C'est pour ça que je dis que c'est un non-sens de faire passer la ressource en eau qui humidifie les sols, de la faire passer dans des bassines.
Eh oui, normalement ça sert à humidifier les sols, on va mettre ça à l'air libre pour qu'en plus le soleil évapore l'ensemble, enfin une partie en tout cas. Qui est-ce qui peut penser à des trucs comme ça? Le problème de Monsieur Amblard, c'est quand même qu'il n'est pas assez ancré dans la rationalité économique. Sinon, il consentirait à faire de l'eau une simple marchandise destinée à irriguer des cultures à vendre sur les marchés des matières premières. Ben voilà, ce serait plus simple. À la place, Monsieur Amblard connaît l'eau comme une ressource indispensable à l'existence d'un milieu de vie pour des animaux, des plantes, des humains. Eh mon gars, non mais attends, ça rapporte quoi à qui ça? Heureusement, le ministre de l'Agriculture, lui, peut remettre les pendules à l'heure. Lors du congrès de la FNSEA, le syndicat majoritaire des exploitants agricoles à Niort en septembre 2021, Julien de Normandie a dit ceci.
Vous savez, quand on parle de la gestion de l'eau, on oublie par simplisme, par facilité, on oublie véritablement ce qui est en train d'être fait. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'aller dans une rivière pomper de l'eau comme ça, sans se poser aucune question. Ça n'est pas vrai. D'ailleurs, les autorisations ne seraient pas données. Il s'agit, par exemple, je vous soumets sous forme de question. Il s'agit de se dire, en plein hiver, quand vous avez une nappe phréatique qui est pleine, quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau, donc quand vous êtes dans un cas, somme toute, assez récurrent aujourd'hui, on l'a vu encore dans notre pays l'hiver dernier, vous avez eu des pluies diluviennes à de multiples reprises. Cette eau-là, cette eau en plus, de manière assurée, elle ne revient pas dans la nappe phréatique, de manière assurée. Et donc, ne peut-on pas, dans notre pays, avoir des consensus en se disant, bah, par exemple, dans ce cas de figure, les pluies diluviennes en plein hiver, avec un seul gorgé d'eau, ces pluies-là, on peut les récupérer, les mettre dans une bassine pour en fait assurer notre production alimentaire et donc notre alimentation.
Ah, le simplisme. Ah, il s'y connaît de Normandie en simplisme. Eh oui, c'est intéressant qu'il parle de simplisme tant la seule solution trouvée par nos soi-disant représentants pour lutter contre les sécheresses récurrentes soit les retenues d'eau. Il a, par exemple, parlé là de difficultés à retrouver de l'eau en été, alors qu'il y en a plein en hiver. Oui, c'est somme toute assez récurrent. L'année dernière, il avait plu beaucoup. Eh oui, cet homme confond la météo et le climat. C'est pas grave, il est pas ministre du climat ou de la météo, non, juste ministre de l'agriculture, hein, une activité qui est quand même très très liée justement au climat. Le simplisme, ça le connaît, monsieur de Normandie. L'idée de rendre la création de piscines géantes toujours plus facile est avancée en mai 2021 par le mauvais acteur mais vrai banquier lors de la semaine de l'agriculture. Vous savez, celui qui passe à la télé pour nous dire que c'est la guerre. Enfin, lui, il est en guerre. Contre qui? Les pauvres, sans doute, mais il n'ose pas le dire. En juillet 2020, c'était déjà Julien de Normandie qui avait parlé de cette idée saugrenue de remettre de l'eau qui est à l'intérieur des nappes phréatiques à l'extérieur pour pouvoir éviter d'avoir des problèmes de pompage en été. Et oui, c'est simplement ça l'idée. Et puis, cette idée là de faire des retenues partout, c'est une idée qui vient des agriculteurs productivistes depuis toujours. Rappelez-vous le barrage de Sivens dont le montage était frauduleux dans la forme, hein, et pour le moins empreint de conflits d'intérêts dans le fond. Eh bien, ce barrage était déjà une histoire d'accaparement de l'eau de tout un milieu de vie par quelques agriculteurs voulant toujours produire plus. Ce serait l'important. C'est donc le modèle de production de la FNSEA qui est défendu par le gouvernement actuel. Hein, on se demande bien pourquoi. Quand c'est tout le modèle de production de notre nourriture qu'il faudrait repenser. Pomper dans les rivières, il a dit, ah ben non, bien sûr, mais en fait, c'est pomper dans les nappes phréatiques. D'où des dizaines de forages à chaque aménagement de bassine. Parce qu'il veut nous faire croire que tout ça, ça va être de l'eau qui tombe du ciel et qui va remplir les piscines. Eh, que nenni. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Le simplisme, c'est son truc à monsieur de Normandie. D'ailleurs, petit rappel.
Il s'agit de se dire, en plein hiver, quand vous avez une nappe phréatique qui est pleine, quand vous avez un sol qui est gorgé d'eau, donc quand vous êtes dans un cas, somme toute, assez récurrent aujourd'hui, on l'a vu encore dans notre pays l'hiver dernier, où vous avez eu des pluies diluviennes à de multiples reprises.
Et voilà, ben oui, c'est un peu un Pascal Pro qui dit « Il n'y a pas de réchauffement climatique, j'ai eu froid aujourd'hui, Julien de Normandie. » En plein hiver, des pluies diluviennes, oui, des sols gorgés d'eau, seulement c'est bidon. La fable que nous livre le ministre des agriculteurs productivistes n'a pas de réalité. Encore une autre, satisfaire notre production alimentaire, c'est ce qu'il dit à la fin de son intervention. C'est pour satisfaire notre alimentation. Seulement, les productions qui sont irriguées par les mégabassines ne satisfont pas forcément notre alimentation. Ils satisfont surtout la production de viande et même la production d'énergie, puisqu'en France, les méthaniseurs, ces structures de production de gaz, peuvent intégrer jusqu'à 15% de plantes, le reste étant du lisier. Ben, les plantes, il faut bien les trouver quelque part. Et il arrive donc qu'une partie des cultures soit simplement cultivée pour pouvoir être foutue en méthaniseur. Il faut se souvenir que nos soi-disant représentants s'appuient sur des rapports d'experts. Par exemple, là, sur quoi s'appuie Julien de Normandie et le mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de président de la République pour annoncer que il faut absolument faire ces méga-bassines? Eh bien, sur un rapport du CGEDD, hein, ça veut dire développement durable à la fin, donc déjà on se dit qu'il y a un petit problème, et du CGAAER qui travaille sur l'agriculture. Le rapport en question s'intitule « Changement climatique, eau, agriculture, quelle trajectoire d'ici 2050 ?» Ça a été pondu en janvier 2021. On peut y lire. Pour les irrigants, l'avantage est d'amener une forme de sécurisation de l'apport d'eau. L'eau provenant des retenues de substitution, oui, parce que méga-bassine, ça fait pas assez langage technocratique d'experts, donc ça s'appelle des retenues de substitution. L'eau provenant des retenues de substitution déconnectées des cours d'eau et nappes n'étant pas soumise aux limitations des plans de crise sécheresse. Eh ben voilà, tout est dit. L'avantage, c'est de permettre de pomper dans des réservoirs qui ne seront pas soumis aux limitations des plans de crise sécheresse. En l'occurrence, les arrêtés préfectoraux qui disent qu'à un moment, on n'a plus le droit d'arroser ni son jardin, ni de remplir sa piscine, ni de laver sa voiture. Autant de choses qui sont primordiales. Oui, arroser son jardin, remplir sa piscine et laver sa voiture. C'est quand même l'essentiel dans ce monde. On continue dans le rapport en question là qui s'intitule, je vous le rappelle, changement climatique, eau, agriculture, quelle trajectoire d'ici 2050? Ce double intérêt est reconnu par l'allocation de subventions par les agences de l'eau, 50 voire 70% pour les travaux et les études, mais ne concernant pas les réseaux de distribution de la retenue vers les parcelles. Peuvent compléter, souvent complétés par les collectivités jusqu'à un plafond de 80%. Outre la bonne insertion environnementale et la non-atteinte à la qualité des eaux, ils ne doutent de rien, bonne insertion environnementale. Il reste à vérifier que le remplissage hivernal, hivernal c'est mis entre guillemets, des retenues n'altère pas le régime hydrologique ou hydrogéologique général. Et dans le cas des cours d'eau, conserve les crues morphogènes. En l'occurrence, est-ce qu'il y aura encore de l'eau dans les petits cours d'eau qui sont pompés alentour, qui alimentent les nappes phréatiques et qui parfois sont le résultat de résurgence, c'est-à-dire de l'eau qui coule en souterrain et qui remonte? Est-ce qu'il y aura encore ces petits cours d'eau? Pour les retenues de substitution, comme en général pour tout stockage d'eau, il convient enfin de mener des études propres à s'assurer que le risque de non-remplissage de la retenue est maîtrisé, y compris en intégrant les tendances locales du changement climatique, en particulier l'accroissement de la variabilité interannuelle et l'augmentation de fréquence d'épisodes secs en période automne-hiver-printemps ou au contraire exceptionnellement humide. Sous ces conditions, bon, vous avez rien compris, moi non plus, hein, c'est du langage technocratique, l'important c'est que se comprennent entre eux. Mais en tout cas, ils mettent des conditions. Sous ces conditions, la mission considère que ce sont les retenues de substitution qui constituent actuellement le mode de renforcement de la ressource en eau qu'il convient de privilégier par une convergence des soutiens publics financiers et d'accompagnement des maîtres d'ouvrage. Eh ben voilà, en fait, l'idée, c'est toujours de continuer dans une agriculture qui a un but, un seul, produire. Produire et encore toujours produire. Bon, bah, le simplisme ministériel en fait une bonne solution en oubliant d'en rappeler les conditions. Les conditions, là, qui sont, bah, on fait attention à chaque milieu et puis, bah, on fait attention à la bonne insertion environnementale. Maintenant, tout ça, c'est oublié. L'important, c'est de financer. Ah ben quand même, le simplisme ministériel, lui, il oublie par exemple de dire que actuellement, 4 départements, on est mi-novembre, 4 départements sont encore soumis à des restrictions à cause du manque d'eau. Seine-et-Marne, Nièvre, Eure-et-Loire, Pyrénées-Orientales. L'année dernière, c'était pire. 2019, c'était pire. Jusqu'à la fin de l'année, il y avait des arrêtés en nombre. Pourquoi? Ben parce qu'il n'avait pas plu comme il a plu cet été. Pour éviter d'avoir des arrêtés préfectoraux qui les empêchent d'arroser en plein été, des exploitants agricoles décident de capter l'eau de tous pour l'emmagasiner dans des réservoirs à ciel ouvert, financés en grande partie par des fonds publics. Persister autant dans l'erreur relève du dérangement mental ou de l'étranglement bancaire. En tous les cas, les agriculteurs qui continuent à faire de la production pour faire de la production, eh bien, ils risquent de nous emmener dans un mur, et le mur en question, il a l'air d'être un peu solide. On aurait pu vous parler des activités de plein air mardi 16 novembre, comme prévu, Olivier Véran, ministre de la Santé, qui disait ceci, tiens, c'était en août dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez.
L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire.
Eh bien oui, le monsieur Olivier Véran qui nous disait des choses en août dernier qui s'avère être totalement l'inverse actuellement, il est bien venu se faire voir au Mans le mardi 16 novembre sur le chantier du futur centre de cancérologie. Des soignants, au nombre de 200 selon le West France, étaient aussi venus pour dire la réalité du travail dans les hôpitaux et les cliniques. Sauf que les gendarmes mobiles qui sécurisent les déplacements des grands de ce monde ont permis à Olivier Véran de ne pas avoir à se mélanger au réel. Il a pu faire sa visite. Il a pu faire ses annonces, il a pu faire ses images en toute tranquillité. Et par exemple, sur le site de France Bleu Maine, eh bien, on n'a rien sur les manifestants. Non, alors peut-être que à l'antenne de France Bleu Maine, il a été indiqué qu'il y avait des manifestants qui avaient été relégués un peu plus loin pour ne pas empêcher Olivier Véran de faire des belles images. Mais là, dans ce qui reste sur leur site, eh bien juste un bel article décrivant les investissements du Ségur de la Santé. Et on nous montre que dans les Pays de la Loire, plus de 1,2 milliard d'euros sont investis dans les hôpitaux. Alors où, quoi, comment est-ce que véritablement ça va permettre de rattraper un retard monstrueux et d'améliorer l'offre de santé dans les Pays de la Loire? On n'en sait pas plus que ça. Hein. Je vous rappelle quand même que au titre du développement, sans faire forcément d'analogie, au titre du développement, la France fournissait des armes et des moyens de répression dans certains pays d'Afrique. Oui, au titre du développement. Donc les visites Potemkin vont se multiplier forcément à l'approche des élections. Vous voyez peut-être l'ami Potemkin, lui c'était un copain de Catherine II de Russie. Et la pauvre Catherine II, quand elle va visiter sa Russie à la fin du XVIIIe siècle, eh bien elle y trouve de la misère. Alors, pour pas qu'elle y voit trop de misère, des façades sont montées dans les rues principales de certains villages. Et les façades en question sont rayonnantes, sont magnifiques. Simplement, ce sont juste des lieux de passage. Alors, quand Catherine II passe à travers cette rue principale, ce qu'elle voit, c'est quelque chose de positif. Voilà les visites, les villages Potemkin de cette période-là. Maintenant, on a des visites Potemkin. C'est-à-dire que Olivier Véran, il arrive dans un endroit sécurisé avec des gens super gentils qui veulent bien lui serrer la main, qui veulent bien lui faire des gros sourires, qui veulent bien même lui parler sans masque. Oui, forcément, des ministres, il a le droit, lui. Les gestes barrières, c'est pour le Pékin moyen. Et donc, du coup, le monsieur Olivier Véran se retrouve dans un monde magnifique où il n'y a aucune difficulté, aucun souci. C'est ce que j'appelle les visites Potemkin. Elles vont se multiplier à l'approche des élections. La propagande tourne à plein. Alors là, en ce moment, c'est une catastrophe. Et il convient de montrer que tout va bien, ce qui implique de ne pas montrer ceux qui vont mal. Et c'est d'ailleurs peut-être le moment de s'inviter dans l'actualité pour entendre autre chose que « regardez, on en met du pognon dans la santé ». Bon, il y a une manifestation anti-passe. Alors, dans les anti-passe, il y a du sérieusement, je sais pas comment donner quel adjectif mettre pour ne pas être désobligeant, mais faites attention un petit peu quand même aux valeurs qui sont dispendiées dans ces manifs anti-passe. Il n'empêche qu'elles ont le mérite d'exister. Rendez-vous place du marché de Pontlieu à 14h, toujours pour dire que là, je vous rappelle quand même que normalement ça devait s'arrêter au 15 novembre. Le mauvais acteur et vrai banquier qui nous sert de président de la REP est passé pour dire le pass, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va l'enlever, mais par contre il va falloir faire une troisième dose pour que votre pass soit valable pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Donc la manif anti-pass, c'est quand même pour rappeler que ce pass sanitaire, il avait normalement une fonction transitoire pour quelques semaines et il a l'air d'être présent pour durer. Et d'ailleurs, une loi a été faite à cet effet. Si nécessaire, il peut être présent jusqu'au 31 juillet 2022. Si nécessaire, la nécessité, c'est même pas la peine de chercher à savoir si cette nécessité fait loi. À partir du moment où c'est dit à la télé, à la radio, il n'y a plus besoin de faire attention à quoi que ce soit. C'est simplement le pass sanitaire pour tout le monde. Bon, bien sûr, si vous êtes au ministère de l'Intérieur et que vous recevez des copains bretons, vous n'avez pas besoin de respecter les gestes barrières. Non, on est entre soi quand même. Il faudrait quand même qu'ils fassent attention à éviter que les vidéos passent à la télé, à la radio, un petit peu partout. Parce que ça fait peut-être pas très sérieux l'idée de l'exemplarité dont ils nous rebattent les oreilles et qui finalement ne les concerne pas. Il y a aussi une manifestation gilet jaune, l'occupation du rond-point de l'Oasis à côté de l'entrée du centre des expositions à partir de 14h ce samedi 20 novembre. Les gilets jaunes y sont depuis toujours ou presque. Ils ont à un moment quitté leur rond-point pour faire les manifestations anti-passe et puis depuis quelques semaines, ils sont retournés sur le rond-point. Là, c'est à l'occasion des 3 ans du mouvement des gilets jaunes. Il est dit dans l'annonce que l'on peut trouver sur sarthe.demosfer.org « Visibilisons nos revendications émancipatrices, rencontrons-nous et partageons des moments dans la convivialité, discutons en assemblée et organisons des actions ». Écoutez, c'est un très bon programme pour des activités de plein air. On aurait pu vous parler également de magie.
Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au 21e siècle où on trouve encore de la magie.
La magie. Madame Pannier-Runacher, cadre dans l'industrie automobile, mais qui n'a travaillé pas vraiment dans les ateliers. Bah non, sinon elle pourrait pas se permettre de parler de magie. Alors les contraintes, eh bien on en a parlé la semaine dernière, il y a des contraintes de rythme. Mais on a aussi d'autres types de contraintes. Je vous rappelle que nous utilisons les documents nés de l'enquête Sumer 2017, c'est-à-dire surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels. Une enquête qui est faite depuis 1994, 2003, 2010 et 2017. Voilà, donc assez régulièrement, hein, tous les 7 ans on peut dire, faite par des organismes officiels et qui permet, après avoir interrogé plus de 25 000 salariés, eh bien, d'extrapoler sur tous les métiers, extrapoler sur les expositions des salariés aux risques professionnels, qu'ils soient des risques physiques ou psychologiques. Eh bien là, on apprend par l'enquête 2017 qu'il y a des contraintes de rythme, mais aussi des contraintes posturales. Elles sont multiples. Souvent, de fait, le corps est contraint pour faire le bon geste qui permettra de réaliser la production demandée. Symboliquement, on s'est intéressé à une contrainte posturale, en l'occurrence position à genoux et ou accroupi. Alors de nombreux emplois vous contraignent à travailler à genoux. Alors pas tout le temps, hein, mais bon quand même. En l'occurrence, dans le BTP, on trouve des bons taux de personnes qui se retrouvent à genoux ou accroupies. Les ouvriers du second œuvre du bâtiment, eh bien c'est 75%. Oui, après le gros œuvre, il y a le second œuvre. Ouvriers du gros œuvre du bâtiment, du béton et de l'extraction et conducteurs d'engins du bâtiment et des travaux publics, 61% se retrouvent à travailler régulièrement à genoux ou accroupis. Et pour les ouvriers de l'électricité et de l'électronique, 60%. On trouve aussi ce genre de posture dans les emplois de l'agriculture et pour les emplois peu valorisés, mal payés et souvent avec peu de diplômes. En l'occurrence, maraîchers, jardiniers, viticulteurs, 63% se retrouvent à un moment ou à un autre accroupis ou alors à genoux. Les aides à domicile et aides ménagères, 63%. Aides-soignants, 49%. Agents d'entretien, 41%. Mais ceux qui décrochent le pompon, bah devinez, ce sont des ouvriers, en l'occurrence ouvriers qualifiés de la réparation automobile. 82% à un moment accroupis ou à genoux. On peut continuer avec les ouvriers qualifiés travaillant par formage de métal, ouvrier qualifié du travail du bois et de l'ameublement, 58% de temps en temps accroupis et à genoux. Et pour les ouvriers qualifiés travaillant par enlèvement de métal, ouvrier qualifié de la mécanique des industries graphiques, 47%. Et pour les ouvriers non qualifiés de la métallurgie, de la mécanique et du bois, 43%. Alors camarades salariés, et plus particulièrement camarades ouvriers, si tu devras bien sûr souvent mettre un genou à terre pour accomplir des gestes décidés par d'autres pour un meilleur rendement. Mais cette allégeance au mythe du travail n'est pas vaine, car n'oublie pas.
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie.
Ça s'arrange pas. Elle a toujours micro ouvert. Hein. J'ai entendu qu'elle était invitée cette semaine. Voilà, elle peut continuer à faire de la propagande sur les beaux emplois que l'on peut trouver dans un endroit qui s'appelle l'industrie, dont le but est, je le rappelle, la productivité maximum pour des produits standardisés. Une horreur, en gros. On a appris cette semaine qu'il y avait des évaluations et que les évaluations des petites têtes blondes à l'école, eh ben elles avaient permis de rattraper ce qui s'était passé. Elles avaient permis de rattraper le niveau de 2019. Et ce qui s'était passé en 2020 avec le coronavirus a été effacé. Et oui, par exemple, on sait que manipuler les syllabes, eh bien 81,6% des CP savent le faire en 2021, contre 79,3% en 2020, oh là là, et 81,3% en 2019. Les évaluations en question ont lieu au mois de septembre-octobre dans les écoles primaires, mais aussi dans les collèges. Alors restons dans les écoles primaires. Il a été évalué que 73,1% des élèves de CE1 ont une bonne capacité à lire un texte à haute voix. 73,1%. Et en fait, eh bien, c'est même mieux qu'en 2019. Ouf, voilà le credo du moment. Faire comme si il ne s'était rien passé et que l'on revienne au taux de 2019. 73,1, ça veut dire que un quart des gamins de CE1 ne savent pas lire un texte à haute voix. Alors on peut se dire, ça va s'arranger au fur et à mesure. En fait, non. Ça se dégrade puisque dans le même temps, il s'avère que les évaluations nous montrent que un élève de 6e sur 2 ne sait pas lire correctement. Alors, est-ce que ça permet de faire une remise en cause de l'école? Parce qu'on passe quand même de 73,1% en fin de CE1 à 50% en 6e. Donc, entre-temps, il y a eu, comme qui dirait, une perte assez importante pour que en 6e, un élève sur deux seulement sache lire. Est-ce que ça permet de remettre en cause l'école? Pas du tout, non, que nenni. On continue sur notre lancée. Quel est le but de cette école dont on pourrait parler d'une école industrielle? On met des élèves en quantité dans un endroit, et puis on essaye de faire en sorte qu'au même moment, au même endroit, ils aient envie d'apprendre la même chose. Et ils en ont tellement envie que, ils réussissent. Ou pas. Du coup, la remédiation, on ne sait pas où est-ce qu'elle est passée. De fait, il y a un âge social. L'école, elle est basée sur cet âge social, c'est-à-dire que quand vous arrivez en CP, à l'âge de 6 ans, vous apprenez à lire. Alors, est-ce que vous, c'est plutôt à l'âge de 7 ans que vous auriez eu les compétences intellectuelles pour apprendre à lire? Ou alors, à 5 ans, déjà, ça vous poussait aux fesses? On s'en fout, l'important, c'est l'âge social. Changer l'école, ce serait changer la société. Et par exemple, on pourrait partir des besoins de l'enfant. Souvenons-nous quand même que les pédagogues de la Renaissance, on est au 16e siècle, savaient déjà qu'il ne fallait pas essayer de remplir une tête avec des informations sans qu'elles aient de sens pour la tête en question, mais qu'il fallait bien sûr que la tête en question soit actrice de son apprentissage. À l'école de la République française, c'est pas tout à fait le cas. On pourrait se souvenir également des expériences des écoles mutuelles au 18e et 19e siècle, en particulier au 19e siècle, des écoles où les élèves peuvent devenir parfois ceux qui apprennent aux autres. Et puis, à un autre moment, pour une autre matière, on inverse un peu les rôles. Ce qui fait que ça donne une place à chacun qui n'est pas la place du sachant d'un côté et la place de l'apprenant de l'autre, qui est un peu dévalorisante. On pourrait relire par exemple un certain Rancière qui avait écrit un bouquin, Le Maître Ignorant, où justement quelqu'un réussit à apprendre une langue à d'autres sans la connaître. Mais comment réussit-il à faire ça? Tout simplement, l'idée c'est que celui qui apprend est toujours le plus apte à faire le travail, et on peut mettre une personne très très importante en face, on peut mettre quelqu'un qui sait tout sur tout en face, c'est pas pour ça que ça permettra le transfert de savoir. Donc c'est surtout la confiance en soi, le fait qu'on croit qu'on va pouvoir apprendre qui nous permet d'apprendre. Il faudrait changer un petit peu cette façon de faire l'école dans notre société, mais du coup ça permettrait pas de remplir le marché du travail avec les personnes qui auraient les bons diplômes pour justement compléter ce marché du travail. Mais ça voudrait dire que l'économie n'est pas la chose la plus importante dans la société. Ça voudrait dire justement qu'on n'est plus dans une économie capitaliste où le but est l'accumulation de profits. Au dépend de qui? Du reste de l'humanité. Alors de fait, ce serait peut-être pas mal de commencer par la base et au lieu de se satisfaire d'être revenu à des taux de 2019, faire en sorte que, si la lecture est importante pour le Pékin moyen, faire en sorte que 100% des Pékins moyens soient capables de lire. Et non pas parce que ça va permettre à la société d'avoir de la main-d'œuvre, d'avoir des ressources humaines, mais tout simplement parce que l'émancipation humaine, c'est peut-être la chose la plus importante. On continuera de vous parler de ça la semaine prochaine à partir de ce que nous a dit André Gorze. Oui, on n'a pas eu le temps ce coup-ci. Il y avait plein de choses à dire. Et d'ailleurs, ça nous met carrément en retard. Alors c'est pour ça que je vous dis, après toutes les manifestations de la semaine que vous pourrez faire, allez, au revoir.